Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour et merci de nous écouter sur Canal Académie, la radio internet qui donne la parole aux académiciens. Jean-Pierre Mahé, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur de philologie et historiographe du Caucase chrétien, nous présente l'aventure, parce que c'est une aventure, de la création des alphabets arméniens, géorgiens et albaniens du 5e siècle de notre ère. Bonjour Jean-Pierre Mahé.
Bonjour madame.
Situé sur une zone de passage, donc d'échange de toutes sortes, entre les différents empires du Proche-Orient et du Moyen-Orient, l'Arménie fut nourrie dès la plus haute antiquité par le rayonnement culturel des grandes civilisations voisines. Sur le territoire même de la future Grande Arménie, les populations ourites et ourartiennes, installées au deuxième et au premier millénaire avant notre ère, étaient détentrices d'une civilisation raffinée. Et encore au premier siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Arménie de Tigrane le Grand fut aussi un pôle important d'art, de littérature et de théâtre. Il ne manquait plus aux Arméniens que le moyen de noter sur parchemin, papier, pierre ou métal leur richesse culturelle. Et il semble d'ailleurs impensable qu'un peuple aussi civilisé n'ait pas songé plus tôt à écrire sa langue. Jean-Pierre Mahé, avant d'évoquer ce qui nous intéresse ici précisément, c'est-à-dire quand, dans quel contexte, par qui les alphabets caucasiens ont vu le jour, et aussi quelles en furent les conséquences, dites-nous quelles sont les écritures que ces pays utilisaient auparavant.
Alors, en fait, il y a eu des écritures qui sont attestées sur leur territoire, mais qu'ils n'utilisaient pas. Parce que c'était les écritures de gens qui ne leur étaient pas sympathiques. C'est-à-dire, par exemple, les Ourites ou surtout les Ourartiens n'étaient pas de même ethnie que les Arméniens. Et les rapports qui existaient entre eux étaient plutôt des rapports de domination. C'est-à-dire que les Ourartiens avaient colonisé le pays et un certain nombre d'Arméniens, ce qui pouvait être là, je veux dire, à ces époques lointaines, entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère, il y en avait déjà quelques-uns, vous les voyez plutôt comme des colonisateurs. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'aient jamais repris l'écriture cunéiforme qu'ils ont vue dans ce pays. Il y a par exemple une inscription qui nous explique que tel roi d'Urartu a fait 6 campagnes de suite avant de réussir à prendre une des régions de l'Arménie. Donc ça nous laisse entendre à quel point c'était comme ça.
C'était donc un moyen de pression plutôt pour eux, l'écriture. Alors, ils
l'écriture,
le vivaient comme
c'était,
un pouvoir d'oppression.
Oui, c'était un instrument du pouvoir de rois étrangers. Alors ces rois étrangers, ou bien justement inscrivaient leur guerre, leur campagne, ou bien, ce qui était pire que tout, ils avaient des grandes forteresses où il y avait des tribus qui étaient prélevées sur la population, naturellement en nature, puisqu'il n'y avait pas de monnaie au 8e siècle avant notre ère. Et sur chacun des pots, il y avait écrit tant de mesures de blé, tant de ceci et tant de cela. Et par conséquent, cette comptabilité était plutôt inquiétante qu'agréable. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, en arménien populaire encore aujourd'hui, celui qui écrit, c'est le démon, qui tient une comptabilité de tout. C'est-à-dire qui tient une comptabilité, évidemment, des choses
de
matérielles,
pas bien.
Mais aussi de toutes les dettes que l'on peut contracter.
Ou les fautes devant la mythologie locale
voilà.
Aussi.
Alors, il y a eu un dieu écriveur du temps des Perses ou des Parthes qui s'appelait Tyr, et qui était lui aussi un dieu qui écrivait les péchés, et donc la comptabilité royale, les péchés des hommes, l'écriture en général, c'est un instrument très suspect. Les choses vraiment importantes, on les savait par cœur. C'était les lois.
Oui, mais l'alphabet va s'installer.
Alors l'alphabet s'installe, c'est-à-dire qu'après ça, viennent des cultures périphériques, n'est-ce pas ? Il y a l'alphabet syriaque, il y a l'alphabet grec. Et puis, les Perses connaissent un alphabet araméen qui va servir aux inscriptions royales. Alors là, on a des inscriptions très brèves, qui sont des inscriptions des rois d'avant l'ère chrétienne, je veux dire entre le 3e et le début de l'ère chrétienne, qui sont des inscriptions en araméen, par exemple sur les limites des champs, ou bien en grec, pour indiquer que telle demeure a été édifiée pour le roi, ou des choses comme cela. mais c'était tout à fait périphérique à l'usage des gens qui préféraient savoir par cœur toutes les choses importantes de l'existence plutôt que de les écrire.
Je pense quand même que effectivement, vous aviez parlé des Grecs, vous avez parlé des Araméens, des Perses. En fait, l'Arménie a sans cesse été le théâtre de guerres perso-byzantines pendant les siècles qui nous intéressent, les premiers siècles de notre ère. Et les rois d'Arménie craignaient toujours d'être accusés soit d'hellénophilie par les Perses, soit de persophilie par Byzance. Donc ils étaient toujours des héritiers malmenés entre ces deux grands empires.
Oui, il y a un dialogue célèbre, probablement fictif, mais où un roi des Grecs, un empereur de Byzance, écrit au roi de Perse en lui disant « Nous pourrions très bien nous entendre s'il n'y avait pas cette nation arménienne entre nous deux. Il trouble nos trocs. Débarrassons-nous de ces Arméniens, déportons-les. Toi, tu prends les tiens, envoie-les en Asie centrale. Moi, je prends les miens, je les envoie dans les Balkans. Et comme ça, on aura la paix, on vivra en bonne intelligence. » Alors, en ce qui concerne justement les problèmes d'écriture, c'est simplement 100 ans après la conversion au christianisme qui a eu lieu au début du IVe siècle que les Arméniens s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus se contenter de lire l'écriture sainte et la liturgie dans des langues étrangères ou encore d'apprendre par cœur des interprétations orales de ce qu'ils ont lu dans les langues étrangères, qu'il leur faut vraiment disposer d'une écriture dans leur propre langue.
Et ça, c'est dans le but de lutter contre le paganisme.
C'est le but de lutter contre les chrétiens qui se lancent là-dedans.
Absolument.
C'est-à-dire qu'ils se disent à quoi ça sert de prêcher. On pourrait prêcher pendant 300 jours sans s'arrêter. Et comme les païens qui l'on prêche connaissent par cœur toutes les aventures des dieux et que c'est beaucoup plus intéressant pour eux que l'évangile ou que l'écriture sainte, eh bien, tous les efforts qu'on fait uniquement par oral ne servent à rien. Il faut pouvoir former d'abord une classe de prêtres qui connaissent l'écriture vraiment par cœur et puis après, il va falloir leur offrir des séances de lecture un peu attrayantes de l'écriture sainte pour que on puisse la leur inculquer. Donc, créer un alphabet national. Mais là, on rejoint le problème que vous signaliez à l'instant, c'est-à-dire que forcément, créer un alphabet national, c'est presque choisir entre les Perses et les Grecs. Et à l'époque qui nous intéresse, nous sommes dans les toutes dernières années du IVe siècle et au début du Ve. Il y a un roi qui s'appelle Vramshapu, et ce roi a des raisons d'être prudent à l'égard des Perses, c'est qu'il a été son frère, qui était roi avant lui, pour un tout petit soupçon d'entente avec les Grecs, a été déporté et n'est jamais revenu dans son pays. Et il se dit, si je traduis l'écriture sainte, mettons, dans un alphabet qui ressemble à l'alphabet grec, immédiatement, je deviendrai suspect et je ne pourrai pas continuer mon règne. Donc, quand le futur inventeur de l'alphabet, qui était un religieux nommé Mashtots, vient le voir avec le patriarche qui s'appelait Saak et lui parle d'une écriture, le premier réflexe du roi, c'est de leur dire « Prenez une écriture déjà en usage dans l'Empire perse ». Et il cite un cas précis, il dit « J'ai entendu dire qu'un certain Daniel, qui est syrien... »
Il y avait déjà eu un précédent.
Oui, a plus ou moins trouvé un moyen d'écrire l'alphabet arménien, d'écrire les lettres arméniennes, enfin bon. Alors, il est sûr qu'en faisant ça, en allant voir un Syrien de l'Empire perse, il ne tombera pas sous le coup de la loi, puisque cette écriture est déjà permise dans l'Empire perse.
Mais il n'y a pas les voyelles, c'est ça?
Alors oui, c'est le problème qu'on peut se poser, parce que la suite de l'histoire, c'est qu'il envoie des émissaires qui lui rapportent les lettres, et qu'aussitôt, il demande au roi des enfants pour essayer le nouvel alphabet. Il tient donc une espèce de classe expérimentale pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, au moment où on lui dit « Alors, allez-vous généraliser cette expérience ?» Il dit « Non, on va changer parce que l'alphabet qu'on a rapporté de Perse n'a pas assez de lettres pour écrire toutes les syllabes ou pour exprimer entièrement les syllabes de la langue arménienne. » Alors, on ne nous explique pas pourquoi il n'y a pas assez de lettres, mais nous l'imaginons très bien quand nous regardons ce que sont en train de faire les Perses à la même époque ou un petit peu plus tard. Ils prennent l'alphabet araméen. Dans cet alphabet araméen, il y a toutes sortes de consonnes qu'ils n'arrivent pas à traduire parce qu'il y a des consonnes du genre ts, ts, des choses compliquées, donc ils n'arrivent pas à exprimer parce qu'il n'y a pas assez de lettres correspondantes dans cet alphabet. Et surtout, comme vous le dites, il n'y a pas de voyelle. C'est-à-dire que si on veut noter un E long, par exemple, on peut mettre un Y, mais ce Y signifiera aussi un I long. Si on veut noter un O long, on peut mettre un W, mais ça servira aussi à noter le OU long. Et s'il s'agit de voyelles brèves, on ne pourra pas les noter du tout. Donc, quand on voit les mots écrits dans ce type d'alphabet, si on ne connaît pas les mots, si on ne les reconnaît pas, en quelque sorte, eh bien, on ne peut pas lire.
Comment s'y sont-ils pris, Machtots et Saak ? Ils sont revenus ?
Alors, à ce moment-là, Machtots fait semblant d'accepter cet alphabet dont il sait très bien qu'il ne marchera pas. Et une fois qu'il a fait semblant, disons, suffisamment de temps, il dit on va le perfectionner un tout petit peu. Et en réalité, pour le perfectionner, au lieu d'aller du côté des Grecs, il va du côté de la Mésopotamie et de l'Empire perse, région dans lesquelles il y a déjà pas mal de chrétiens qui connaissent très bien le grec et le syriaque, et probablement dans l'école grecque de la ville d'Amida, c'est-à-dire Diyarbakır à l'heure actuelle, eh bien, il imagine un système qui est probablement très différent de celui qu'il avait initialement adopté. Système qui est différent en ce sens que chaque consonne est représentée par un signe distinct, ce qui suppose qu'on invente des consonnes nouvelles, probablement.
C'est un code.
Et d'autre part, que les voyelles sont toutes notées. Et donc, en se dissimulant et par des voies un petit peu détournées, au lieu d'adopter une écriture défective, c'est-à-dire qu'il ne note pas tout comme le syriaque et l'ancien perse,
elle est phonétique.
Il va noter une écriture entièrement phonétique comme celle des Grecs. Et en fait, on peut dire que l'alphabet arménien, ça dépend de quel point de vue on se place. On peut dire, ou bien c'est un, si on est véritablement objectif, on dira c'est un dérivé de l'alphabet grec, c'est-à-dire c'est un alphabet grec qui a été complété, mais avec un dessin des lettres totalement différent, n'est-ce pas ? Ou bien, si on essaye de se replacer dans la position qui était celle de Machtots, on dira c'est un alphabet grec déguisé. C'est-à-dire que personne, voyant cette écriture, ne peut supposer qu'il s'agit d'une écriture dérivée du grec, parce que les formes sont tout à fait différentes et parce que les lettres sont bien plus nombreuses. Mais en réalité, quand on examine les choses de près, on s'aperçoit que toutes les lettres de l'alphabet grec sont reprises et qu'on a intercalé entre les lettres grecques des lettres qui n'existent pas en grec mais qui correspondent à certains sons de l'arménien. Et donc, on a dissimulé le fait que c'était un alphabet, en fait, tout à fait dans l'esprit de l'alphabet grec.
C'est-à-dire que c'était très ingénieux, mais il a quand même fallu avoir certainement des interprètes pour pouvoir, par exemple, quand ils sont mis à... Alors, c'était en 405, je crois.
Oui, 405.
Pour l'Arménie. 411 pour la Géorgie et 422, vous me corrigez si...
Oui.
C'est pas tout à fait ça, pour l'Arguanie, enfin l'Albanie.
Oui, mais là, vous venez de brûler une étape.
Oui, mais hein, donc, il a fallu à chaque fois des interprètes.
Donc, Machtots, au départ, n'a aucune difficulté puisqu'il invente un alphabet pour sa propre langue.
Ex nihilo.
Ex nihilo, enfin pas tout à fait ex nihilo,
puisqu'il
avait pris un alphabet en usage dans l'Empire perse, qu'il a bricolé à sa façon. En tout cas, lui n'a aucun problème en ce qui concerne sa propre langue. Mais, et alors, il va trouver tout de suite des applications à cet alphabet, traduire la Bible, traduire la liturgie de Jérusalem pour pouvoir l'introduire dans les églises, enseigner cet alphabet de l'autre côté de la frontière byzantine, pour réunifier les Arméniens de part et d'autre de la frontière byzantine.
Oui, c'est la Perse-Arménie.
Lui, il est dans la partie Perse de l'Arménie, qui s'appelle la Perse-Arménie. Et de l'autre côté, il y a des provinces byzantines qui sont peuplées d'Arméniens. Simplement, les Arméniens qui sont dans ces provinces n'ont pas la possibilité de célébrer la liturgie de l'Église dans leur langue nationale. On leur fait lire la liturgie en grec, et il y en a de beaucoup alors, qui quittent l'Église tout simplement à cause de cela et adhèrent à une hérésie, entre guillemets, qu'on appelle les borborites. Borborites, ça ne veut rien dire, ça veut dire les gens du bourbier. Hein, ils tombent dans la fange de l'hérésie.
Oui, c'est pas un mot qui est choisi pour être gentil.
Non, c'est un mot qui est choisi pour les désigner d'une façon péjorative.
Oui, un peu les barbares, pas loin.
C'est Borboros, le bourbier. Eh bien, Mashtots va voir les autorités byzantines, il leur dit « Permettez-moi de leur enseigner la liturgie dans leur langue, une langue qu'ils comprennent, et vous verrez qu'ils vont cesser d'être hérétiques, ils vont revenir à l'Église. » Donc, dans un premier temps, il consolide sa propre nation. Et très probablement, il se rend compte dès le début que ce premier partage de l'Arménie entre les Grecs et les Perses, alors qu'autrefois l'Arménie était toute entière sous protection grecque et donc sous protection chrétienne, c'est quelque chose qui est une étape vers une situation encore plus grave. C'est-à-dire que forcément, les Perses vont essayer de supprimer le christianisme en Arménie. Alors, pour que l'Arménie puisse résister, il ne faut pas qu'elle soit isolée. Et par conséquent, il est souhaitable que le christianisme des voisins chrétiens caucasiens de l'Arménie se renforce. Et là, il y a deux peuples qui sont intéressants. Il y a d'une part les Géorgiens, donc la région de Tbilissi à peu près, où on est, c'est plus petit que la Géorgie actuelle parce que toute la côte de la mer Noire ne fait pas partie du royaume géorgien. Et de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle l'Albanie caucasienne, moi je dis l'Albanétie, comme on dit l'Ossétie, spécialement la région du nord de l'Azerbaïdjan. Et là aussi, il y a des peuples qui sont chrétiens. Alors, il faut leur créer un alphabet à eux. Et comme vous dites, alors à ce moment-là, il va être nécessaire d'avoir des interprètes. Est-ce que le mot « interprète » est d'ailleurs le mot qui convient ? Peut-être que les linguistes d'aujourd'hui diraient des informateurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent très bien parler la langue et qui vont servir de sujet expérimental justement au savant qui va essayer d'écrire cette langue. Alors, on peut en effet... Enfin, nous avons une chronique qu'il est difficile de démentir, qui dit que vers, à des dates qui ne sont pas absolument certaines, mais vers 411, et peut-être entre 411 et 416 pour la Géorgie, peut-être 422 pour l'Albanétie, Mesrop Mashtots, le nom de l'inventeur, a créé deux alphabets qui correspondent à chacune de ces langues. Et évidemment, ça pose toutes sortes de questions, c'est-à-dire pourquoi fallait-il créer trois alphabets ? Est-ce que le même alphabet n'aurait pas pu aller pour les trois ?
Et est-ce qu'il y a des concordances ? Est-ce qu'il y a des similitudes, des différences, des structures différentes les uns avec les autres ?
Voilà, alors ça c'est une question difficile. L'alphabet arménien et l'alphabet géorgien, ils ont exactement le même nombre de lettres, 36 dans les deux cas. Parce qu'au fond, ça correspond à la même région du Sud-Caucase. Le géorgien n'est pas indo-européen, l'arménien est indo-européen, mais au fond ce sont des voisins du Sud-Caucase et donc ils ont un système phonétique assez proche. C'est-à-dire qu'on pourrait presque prendre une à une, disons, les lettres arméniennes ou les lettres géorgiennes, et puis mettre à côté la lettre correspondante.
On pourrait faire une véritable correspondance.
Presque. Phonétiquement aussi. Il y a des petites différences dans la prononciation des consonnes, mais enfin, disons que si on expliquait à un arménien, voilà comment il faut prononcer le géorgien en lui mettant des lettres arméniennes comme ça, il prononcerait d'une façon à peu près intelligible pour les géorgiens. Au contraire, du côté de l'albanien, c'est très difficile parce que l'albanien, c'est l'autre côté de la chaîne du Caucase, c'est déjà le nord, et ce sont des systèmes phonétiques très compliqués. Et donc, l'alphabet albanien a 52 lettres et pas 36. 52 lettres avec des consonnes très abondantes et très compliquées et des voyelles qui, au contraire, sont très, très simples. À côté de ça, il y a 6 voyelles et puis le reste, ce sont des consonnes. Et alors maintenant, pour la structure. Alors, ce qu'on peut appeler la structure d'un alphabet, c'est l'ordre dans lequel les lettres se suivent. Eh bien, il y a un contraste entre l'ordre de l'alphabet arménien et l'ordre de l'alphabet géorgien. C'est-à-dire que dans l'alphabet géorgien, vous avez toutes les lettres qui existent dans l'alphabet grec, qui sont données d'abord. Et puis ensuite, vous avez toute une série de lettres qui n'existent qu'en géorgien et pas en grec. Et évidemment, quand on lit, quand on voit cet alphabet comme ça de l'extérieur, on trouve que ça fait comme si on avait deux ensembles disparates. C'est-à-dire, on voit tout de suite ce qui est grec puisqu'il ne l'est pas. On a l'impression un manque d'unité. Tandis que dans l'alphabet arménien, subtilement, il a éparpillé les lettres proprement arméniennes entre les lettres grecques, mais sans changer l'ordre initial des lettres grecques. Alors, les Géorgiens disent « ce sont là deux structures différentes » et par conséquent, il est fort probable que ça n'est pas la même personne qui a inventé les deux alphabets. C'est ce qu'ils pensent. Alors, d'accord, mais ça pose différents problèmes. Premièrement, ça pose le problème de savoir pourquoi une chronique authentique du 5e siècle nous dit que c'est quand même la même personne qui les a inventés. Deuxièmement, ça pose aussi le problème de savoir de quand datent les lettres géorgiennes si elles n'ont pas été inventées par Mashtots. Or, jusqu'à présent, il n'existe aucune inscription géorgienne connue dont on puisse dire avec certitude qu'elle est antérieure au 5e siècle. Au contraire, il semble que toutes les inscriptions géorgiennes les plus anciennes soient du 5e siècle. Et d'autre part, il semble bien que les traductions de la Bible géorgienne les plus anciennes que l'on connaisse, dérivent de l'arménien. Alors voilà, on a une position un petit peu incertaine. On peut se demander pourquoi Mashtots a voulu faire comme ceci d'un côté et comme cela de l'autre, ou bien s'il a travaillé tout seul dans les deux cas, si ce n'est pas son interprète qui lui a demandé, son interprète qui s'appelait Djala, un nom qui n'est pas arménien, qui n'est pas connu en géorgien, mais qui n'est pas arménien, très certainement. Donc, l'hypothèse d'un alphabet créé au 5e siècle, au moins avec l'intervention de Mashtots, est vraisemblable. Du côté albanien, les choses sont beaucoup plus simples. Parce que aujourd'hui, on a retrouvé en entier l'écriture albanienne et on peut affirmer d'une façon certaine que les lettres arméniennes se suivent dans l'ordre, dans l'alphabet albanien, et que les lettres propres à l'albanien sont intercalées entre les lettres arméniennes. Et d'autre part, on est absolument sûr que la Bible albanienne a été traduite de l'arménien. Et donc, il est vraisemblable que c'est la même personne qui s'en est occupée.
Et alors, ce sont des langues, des écritures qui ont demeuré en Arménie et en Géorgie. Nous avons des traces historiques depuis toujours. Mais je crois que la langue et les écrits albaniens ont, pour un temps, puisque dernièrement il y a eu des merveilleuses découvertes, ont disparu. Ce sont les Albanéciens
ou les Albaniens
ont arrêté de parler la langue lancée par l'écriture lancée par Mashtots.
C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que au départ, cette écriture était un instrument au service de la Bible et de la liturgie.
Oui, chrétien, toujours chrétien.
Or, il se trouve que si vous prenez la carte, vous voyez tout de suite de quoi il est question. C'est que l'Albanie où l'Albanetti est beaucoup plus exposée.
Oui, elle va être annexée finalement.
Et donc, très souvent, presque aussitôt après la création de l'alphabet, le royaume d'Albanetti a été supprimé et il a été transformé en gouvernement, enfin en région perse. Et après ça, il a été rétabli par intermittence, mais dans une position géographique un petit peu différente. C'est-à-dire que quand les Perses, après 451, ont décidé de supprimer le royaume d'Albanetti, ils ont fait donc cette région albanienne et ils y ont rajouté plusieurs provinces détachées de l'Arménie. Et leur idée, c'était d'affaiblir l'Arménie en lui enlevant un certain nombre de provinces. Seulement, il y avait un écart de civilisation considérable entre les provinces arméniennes du sud et les provinces albaniennes du nord. Et ce qui s'est passé, que n'avaient pas prévu les Perses, c'est que très vite, ce sont les princes arméniens du sud qui ont dominé l'ensemble du pays, tout simplement parce qu'ils étaient supérieurs en matière de culture, de civilisation matérielle, enfin de choses de ce genre, ils ont dominé. Et alors, petit à petit, comme ils dominaient le pays, ils ont imposé leur langue dans la liturgie, et très vite, la liturgie qui avait été créée dans la langue locale est devenue désuète, parce que c'était les Arméniens qui avaient imposé leur liturgie. Après ça, eh bien, vous savez que les Arabes ont très vite conquis la Perse, et comme cette province était exposée à la Perse, elle est devenue le centre d'un émirat enfin qui a existé dès la fin du 7e siècle, et donc les populations chrétiennes ont été éliminées. Et donc il a fallu attendre jusqu'au 20e siècle pour retrouver les traces de cette écriture.
Alors comment l'a-t-on retrouvée? Qu'est-ce qui s'est passé
pour l'a retrouvée progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, c'était en 1936, on a retrouvé un curieux manuscrit à Yerevan, dans la bibliothèque du Matenadaran, qui est la bibliothèque des manuscrits anciens, qui était la liste de tous les peuples, ou l'écriture de tous les peuples qui ont traduit la Bible dans leur langue.
C'est une mine d'or, parce qu'on peut faire des correspondances encore là.
Oui, c'est une mine d'or, parce que certainement on apprend des choses, mais là on avait l'alphabet albanien. Alors simplement, c'était une information très très sommaire, parce que le but de ce genre d'encyclopédie n'était pas du tout linguistique, il était théologique, c'est-à-dire qu'il s'agissait, dans les controverses avec l'islam, quand les musulmans disaient « les chrétiens ont falsifié la traduction de la Bible », de mettre sous les yeux de ces contradicteurs différentes traductions de différentes époques et leur dire « elles disent toutes la même chose ». Donc il fallait avoir un outil pour connaître ça. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire on a une page de manuscrit arménien. Alors, il y a le dessin approximatif de la lettre albanienne et en dessous, il y a l'explication des sons en arménien. Alors, quand ça a été découvert en 1936, un très grand savant de l'époque, qui s'appelait Akaki Chanidze, qui était géorgien, a regardé l'alphabet et a dit « ça correspond effectivement à une langue caucasique du Nord-Est ». Et il a cité un passage de Pline l'Ancien qui disait qu'un peuple qu'on appelait les Zoudini étaient les amis des Albani, c'est-à-dire des Albaniens en question. Et donc, il a donné le conseil à l'Académie des sciences de l'URSS d'aller examiner la langue des Oudis, un peuple qui existait en Azerbaïdjan. Et heureusement, à ce moment-là, il restait 3 villages Oudis et on a fait une description complète de leur langue. Et après ça, on a attendu. Et voilà qu'en 1947, on fait des grands barrages en Azerbaïdjan, un endroit qui s'appelle Mingechevir. Et là, on dégage des pierres sur lesquelles il y avait des inscriptions semblables à celles du manuscrit de 1936. Malheureusement, elles étaient courtes, elles étaient cassées. Donc, on a eu la preuve matérielle que l'alphabet avait bien été en usage, mais on n'a pas pu tirer grand-chose de ces inscriptions. Et c'est seulement en 1996, à Sainte-Catherine du Sinaï, que dans un petit groupe de manuscrits géorgiens qui avaient été, au XVIIIe siècle, enfermés dans un cimetière de livres et ensuite retrouvés à cause d'un incendie, on a remarqué que ces manuscrits étaient des palimpsestes, qu'il y avait une écriture en dessous et que cette écriture en dessous était l'écriture albanienne qu'on cherchait depuis si longtemps.
Et c'était toujours des textes religieux.
Alors c'était des textes religieux. À vrai dire, celui qui a fait cette découverte, c'est un savant géorgien qui s'appelle Zaza Alexidze, qui a longtemps été le directeur de l'Institut des manuscrits géorgiens à Tbilissi. Et il avait été envoyé par la Géorgie pour inventorier les nouveaux manuscrits retrouvés au Sinaï. Et certains de ces manuscrits, à cause de l'incendie, avaient été chauffés, bien sûr, par le feu, puis mouillés par l'eau qui avait servi à éteindre l'incendie, et les pages étaient restées collées. Donc il fallait prendre de grandes précautions pour les ouvrir sans les casser. Alors ils ont fait ce qu'il fallait, et quand ils ont ouvert, il est probable que si les manuscrits n'avaient pas été chauffés, ils n'auraient rien vu. C'est-à-dire la chaleur avait fait remonter l'écriture inférieure. Et certaines pages étaient très visibles. Tellement visibles que Zaza Alexidze a pu faire tout de suite des dessins de ce qu'il voyait et aussitôt rentrer chez lui, constater que c'était l'écriture albanienne dont on connaissait déjà quelques échantillons.
Mais c'est incroyable parce que l'archéologie du parchemin peut reconstituer les états successifs d'occupation de chaque feuillet, exactement comme des fouilles qui permettent d'établir la stratigraphie d'un terrain. C'est aussi simple que ça, finalement?
Non, c'est pas aussi simple que ça. Ça suppose des inventions qui sont récentes. C'est-à-dire qu'autrefois, bien sûr, on lisait les palimpsestes en se crevant les yeux. C'est-à-dire on avait la gomme, le crayon, la loupe et on essayait de voir ce qui était sous-jacent, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une œuvre d'expérience, mais aussi de patience. Bon. Et puis, disons, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont cru trouver des moyens chimiques pour lire l'écriture sous-jacente. Et donc, ils ont enduit les pages palimpsestes de parchemin de quelque chose qui faisait par réaction ressortir l'écriture d'en dessous. Ça n'avait qu'un inconvénient, c'est qu'une fois passées quelques heures, la page devenait illisible. Le produit continuait à travailler.
Et ça a été détruit définitivement?
Et après la guerre, mais même tout récemment, on peut dire, on a eu l'idée, comment dire, de la lumière multispectrale. C'est-à-dire qu'on prend une lumière blanche, si vous voulez, une lumière complète, ordinaire, et puis on fait varier la fréquence lumineuse. C'est-à-dire que vous allez essayer toutes les fréquences lumineuses, depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Et suivant la composition chimique de l'encre, on postule bien entendu que l'encre de l'écriture du dessus n'a pas exactement la même composition que celle de l'écriture d'en dessous. C'est normal. Je veux dire, il peut y avoir un siècle, deux siècles, trois siècles qui les séparent et c'est pas du tout le même lieu. Eh bien, admettons telle fréquence lumineuse va faire ressortir l'écriture du dessous. Alors dès que on voit que l'écriture du dessous se voit mieux, si vous voulez, à cause de cet éclairage, aussitôt, on prend une caméra qui sert normalement à des opérations médicales parce qu'on peut viser des points très très précis. C'est des caméras qui sont chirurgicales, qui servent à des choses comme ça. Donc, on vise un point très précis, on enregistre tout et après, ces images électroniques, on peut les retravailler de façon à reconstituer virtuellement l'état antérieur du manuscrit. Donc, en ce qui concerne nos manuscrits du Sinaï, vous voyez, on avait des très grandes feuilles avec deux colonnes et l'écriture albanienne. Et puis, ça doit dater du 8e siècle, peut-être, de notre ère. ou peut-être même avant, entre 5e, 8e siècle. On ne sait pas exactement. On n'a pas pu faire des prélèvements pour dater au carbone. Et puis après, quelqu'un les a pliés en deux et a écrit, en croisant les lignes, a écrit en géorgien, probablement au 10e ou au 11e siècle. Eh bien, pour reconstituer la page, il faut retrouver les deux morceaux et les réunir virtuellement. Et puis après, il faut, sans détruire le manuscrit, effacer virtuellement, tout simplement par éclairage multispectral, ce qu'il y a au-dessus et ne montrer que ce qui est en dessous. Et c'est ce qu'ont réussi à faire Jos Gippert et Wolfgang Schulze, qui ont utilisé donc un procédé qui s'appelle MUSIS, Multispectral Informatic System, pour le palimpseste géorgien. Alors ça donne, en effet, l'impression que l'on voit le manuscrit dans son état originel. Et en effet, on peut reconstituer plusieurs couches graphiques sur un manuscrit, exactement comme si on fouillait sur un site et on voyait un premier état, puis un deuxième état, puis un troisième état.
Une prouesse technique au service du texte antique, parce que l'intérêt aussi de l'Arménie, c'est qu'en fait, c'est le berceau de beaucoup de manuscrits qui n'existeraient pas sans elle, puisque la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, comme chacun sait. Mais en Arménie, il y avait des textes qui, eux, n'ont pas été détruits.
Oui, enfin, on peut l'exprimer en effet ainsi, c'est-à-dire que, en effet, nous sommes privés d'un très grand nombre d'œuvres antiques qui ont disparu. Ce sont des œuvres de nature, des œuvres proprement païennes, et puis également des œuvres chrétiennes anciennes. En ce qui concerne les œuvres païennes, au VIe siècle, les savants païens, les philosophes païens ont été exclus de l'Empire byzantin. On sait qu'ils sont allés en Perse et qu'on en a retrouvé ensuite dans le califat et qu'ils sont, comment dire, à l'origine de la science arabe, en partie en tout cas. Eh bien, il est évident que pour se rendre là-bas, il fallait qu'ils passent par l'Arménie. Et donc, il y a eu, au 7e siècle, énormément de textes qui ont été traduits du grec en arménien, qui sont des textes de sciences profanes, soit des disciplines littéraires comme la rhétorique, par exemple, mais aussi la logique d'Aristote, des choses de ce genre-là, soit des sciences mathématiques, astronomiques, géographiques, qui ont été conservées.
La cosmographie.
Seulement la cosmographie, tout ça, qui ont été conservées seulement en arménien. Mais alors, probablement, les Arméniens n'auraient pas été aussi accueillants à ces littératures si l'inventeur même de l'alphabet arménien, Mesrop Mashtots, n'avait lui-même montré l'exemple en ordonnant, dès que l'alphabet est trouvé, non seulement de traduire la Bible, mais de traduire tout ce qui peut aider à comprendre la Bible, c'est-à-dire la vision du monde. C'est-à-dire que certainement, vous avez un passage sur la traduction de la Bible qui nous dit que, en ce temps-là, dit le chroniqueur, notre pays d'Arménie devint tout à fait prodigieux, parce que Moïse et tous les prophètes, Paul et tous les apôtres et l'évangile vivifiant du Christ arrivèrent chez nous et se mirent à parler arménien. Et alors, il dit, à la suite de cela, notre pays qui était si loin du reste du monde, si loin de Jérusalem et de tous les endroits où s'étaient passés des faits si importants, qui ne savait rien que des mensonges à propos du passé, d'informer de tout ce qui avait été fait depuis le début des mondes et de tout ce qui allait arriver jusqu'à la fin. Et évidemment, ça incluait les livres de l'écriture, mais ça incluait surtout l'exégèse, en quelque sorte, de ces livres-là. Et donc, nous avons beaucoup de livres de l'école d'Antioche qui ont été traduits du syriaque en arménien et qui n'existent plus ni en syriaque ni en grec quand ils existaient en grec et qui ont été conservés. Puis après, eh bien, d'autres livres patristiques, je peux en citer simplement quelques-uns. Prenons Irénée de Lyon, le premier évêque des Gaules. Eh bien, l'un de ses livres importants, qui s'appelle « L'explication de la prédication des apôtres », n'existe qu'en traduction arménienne. Pour son œuvre principale « Contre les hérésies », nous avons une vieille traduction latine, mais aussi une version arménienne qui permet une reconstitution mot à mot du texte grec. Eusèbe de Césarée, qui a le conseiller religieux, on pourrait dire, de Constantin, qui avait écrit toute l'histoire ancienne du Proche-Orient avec les livres de Manéthon, de Bérose. Son histoire a été dépecée dans les chroniques byzantines Et le seul moyen de la lire d'un bout à l'autre, c'est de lire la version arménienne. Et en plus, c'est un manuscrit unique en arménien. Donc on voit la part importante de mémoire de l'humanité qui a été conservée par les traductions arméniennes.
Donc, la gloire de l'Arménie, c'est l'alphabet de Mashtots.
Oui, c'est certainement une part de cette gloire très importante et à laquelle les Arméniens ne renonceraient pas facilement.
Mais de nos jours, c'est le Matena d'Aran qui est la gloire d'Erevan, parce que c'est l'un des plus riches dépôts des manuscrits et des documents du monde. Vous en aviez parlé tout à l'heure.
Oui.
Et je ne résiste pas, pour conclure, à ce que vous nous lisiez la phrase qui est écrite en haut de la porte du Matena d'Aran.
Eh bien, c'est connaître sagesse et instruction, comprendre les paroles de l'intelligence. Et c'est le début du livre des Proverbes de Salomon, qui a été le premier texte traduit en arménien. Et pourquoi ? Ben parce que pour apprendre à lire et à écrire aux enfants, il faut leur faire copier des phrases courtes. Et c'est cela qu'étaient les Proverbes de Salomon.
Oui, des formes de sentences aussi.
Des formes de sentences, mais des sentences évidemment en accord avec la Bible. C'est pour ça qu'ils ont pris le livre des Proverbes.
Oui, avec une moralité.
Oui.
Merci Jean-Pierre Mahé.
Merci beaucoup.